C'est un brin d'histoire. Je suis Christian Lacombe et j'aborde la richesse de notre patrimoine régional. Et j'appartiens à plusieurs associations d'histoire locale. Alors ce mois-ci, dans un brin d'histoire, nous allons sortir de l'ombre Jacques-Marie Rouzet. Jacques-Marie Rouzet est un conventionnel et député de la Haute-Garonne de la circonscription de Rieux-Volvestre sous la Révolution. Alors nous devons cette recherche à notre compatriote Georges Argel, président honoraire de l'Association d'histoire et tradition carbonaise. Jacques-Marie Rouzet va nous permettre de traverser une époque ô combien périlleuse, celle de la Révolution française. Cet homme n'est pas banal. Son intelligence, son sens du devoir pour les idées de la République vont le hisser au premier plan des responsabilités. Mais l'amour passionnel pour une princesse va le transformer. Jacques-Marie est né à Bessens, dans le Tarn-et-Garonne, en 1743. Il est d'un milieu modeste. Son père est tailleur et sa mère est la fille d'un perruquier de Grisolles. Mais Jacques-Marie est un enfant doué d'une intelligence vive. Le curé de Bessens, l'abbé Jouglas, s'en aperçoit. Il va compléter sa formation. Il l'instruit aux convenances et grâce à ses relations, il le fait entrer au collège de l'Esquille, rue du Thor à Toulouse, en cachant bien sûr ses origines. Nous sommes, ne l'oublions pas, sous Louis XV. Au même moment, Jean-Marie Hébrard, avocat à Grisolles, et sa femme, Paul, sont tués dans un accident. Et leur fille, Marie Hébrard, qui est née en 1745, se retrouve seule. Elle est adoptée par son parrain, notaire à Bessens. Et au même moment, Jacques-Marie rentre comme gratte-papier à l'étude notariale de Bessens. Rapidement, il devient le second clerc. Les deux jeunes gens se rencontrent et bientôt se fréquentent, avec l'approbation du vieux notaire. Jacques-Marie est très apprécié dans son travail. Tout semble lui réussir, mais son ambition est de devenir avocat. Le barreau n'est réservé qu'à ceux qui possèdent un titre. Et la future famille, issue d'une aristocratie régionale, va réussir quand même par ses relations à le faire admettre à la faculté de droit de Toulouse. Deux ans plus tard, à 20 ans, il sort avec le titre d'avocat. Et le mariage a lieu le 14 février 1775. Il épouse la jolie Marie Hébrard. Les jeunes mariés vont s'installer à Toulouse. Jacques-Marie ouvre son cabinet 45 rue des Tourneurs. En peu de temps, il devient un des meilleurs avocats de Toulouse. Il est aussi très jalousé. En 1791 et 1792, il exerce comme professeur de droit à la faculté de Toulouse. Rouzet est un homme brillant, de grande éloquence. Ses grandes capacités intellectuelles le font remarquer. Il participe au conseil de la ville, réuni par les capitouls en 1789 et 1790. Il est nommé procureur syndic de Toulouse en 1790. Jacques-Marie affiche des idées à tendance girondine, disons modérées. Il deviendra un des plus grands personnages de la Révolution toulousaine. Il sera élu comme député du département de la Haute-Garonne à la Convention nationale, 10e sur 12, et il siège à l'Assemblée dans le camp des Girondins. Rouzet entre à la Convention nationale. Il présente, le 10 avril 1793, un projet de constitution. Il y sera très actif. D'ailleurs, il rencontrera Olympe de Gouges, beaucoup de gens de l'époque. Peu à peu, Rosalie voit son mari s'éloigner. Bien sûr, les deux enfants, Rosalie et Jacques, voient peu souvent leur père, car les séjours à Toulouse sont brefs, mais quand même festifs. Rouzet va se singulariser par son vote favorable au roi lors de son procès. C'est-à-dire qu'il ne vote pas la peine de mort de Louis XVI, mais sa réclusion. Et suite à ce choix, 40 de ses confrères vont être guillotinés, sans jugement. Jacques-Marie Rouzet, avisé après cette journée du 31 mai 1793, disparaît. Il va se cacher. Mais une rencontre décisive va marquer le destin de Rouzet. Pendant ce temps, eux, les aristocrates sont pourchassés. Le cousin du roi, Philippe d'Orléans, que l'on appelle Philippe Égalité, qui a voté, lui, la mort de son cousin, Louis XVI, va être à son tour guillotiné. Et le 9 novembre 1793, son épouse, Marie-Adélaïde de Bourbon-Penthièvre, est mise en état d'arrestation. Cette personne est notre second personnage de cette saga révolutionnaire dont nous allons parler. Le 11 novembre, elle se retrouve emprisonnée au palais du Luxembourg. Ses biens sont immenses, bien sûr, Ils furent confisqués. Au palais du Luxembourg, pour ces gens-là, c'était quand même une prison dorée pour les aristocrates fortunés. Marie-Adélaïde de Bourbon se plaint incessamment de son état, sa santé, à tous les membres des comités révolutionnaires. Elle gagne quand même du temps, elle temporise, et ainsi, elle réussit à atteindre Thermidor. Thermidor, vous savez, c'est la fin de Robespierre et des grandes tueries. Les conventionnels modérés vont prendre alors le pouvoir. Notre histoire continue. Il existait à Paris un personnage qui était à la fois menuisier, médecin, hôtelier, intrigant, qui avait ouvert une pension pour recevoir des familles transférées par décision de justice et qui se nommait Belhomme. La pension Belhomme, rue de Charonne, vivait des écus de ces gens fortunés, protégés par le pouvoir, tant qu'il y avait des revenus, et pouvait aussitôt s'ouvrir vers l'échafaud. La veuve de Philippe Égalité resta 3 ans rue de Charonne. Elle y arriva le 14 septembre 1994. Mais revenons à Jacques-Marie Rouzet, qui, perdu dans Paris, peu discret, est reconnu. Il est arrêté le 18 mars 1994. Il est poursuivi, capturé, conduit à la caserne des Carmes, vous savez là, la caserne des Carmes, c'est l'ancienne abbaye dans laquelle 73 prêtres ont été massacrés en septembre 1993. Il fut sauvé, d'ailleurs, par l'exécution de Robespierre. Et lui aussi, se plaignant des yeux, d'autres problèmes de santé, il temporise aussi, il va être transféré dans la pension Belhomme. Et la rencontre d'Adélaïde de Bourbon, Penthièvre et de Jacques-Marie Rouzet se fera peu à peu. On sympathise, on se revoit, on se risque à prendre le bras de la princesse et l'amitié devient de l'amour. Les temps changent. La Convention décide, en décembre 1794, que les survivants des députés girondins cessent d'être proscrits et les autorise à reprendre leur place. Jacques-Marie Rouzet revient ainsi siéger à la Convention aux côtés des autres députés girondins et adopte des positions royalistes. Le 17 primaire, 7 décembre 1994, il fait voter la levée des séquestres et la restitution des biens mobiliers des citoyens condamnés par les tribunaux révolutionnaires. Ainsi, la princesse Marie-Adélaïde de Bourbon-Penthièvre est libérée. Tous ses châteaux ayant été saisis et pillés, elle envisage l'achat de la pension Belhomme. En tout cas, elle loue le bâtiment où tous les amis de Rouzet et de la princesse sont invités. Barras, Tallien, les mondanités et réceptions se succèdent. Si bien qu'à l'Assemblée, on reproche ce train de vie incompatible à celui d'un représentant du peuple. Le 15 octobre, Jacques-Marie Rouzet est finalement, quand même, élu au Conseil des 500. Et cette Assemblée propose l'amnistie de la totalité des délits révolutionnaires. Et Rouzet fait alors lever le séquestre sur les biens de Marie-Adélaïde. Elle lui en sera toute la vie reconnaissante. Le directoire vote aussi une loi qui expulse de France tous les Bourbons. Et donc, la princesse veuve de Philippe d'Orléans se doit de quitter la France. La princesse refuse de s'exiler vers les États-Unis d'Amérique, où sont déjà partis ses fils, sûrement pour ne pas quitter son ami Rouzé. Enfin, la princesse est obligée de quitter Paris dans la nuit du 12 septembre 1797. Le cortège se compose de 5 calèches et une grosse berline tirée par 20 chevaux, accompagnée de 4 domestiques. Le cortège emmène la princesse et ses femmes de chambre et quelques autres personnages. On avance par étapes en direction de l'Espagne. Avec quelques soucis, le long du chemin, un essieu cassé, une voiture renversée. Enfin, au bout de 18 jours, on atteint le Pertus. Et les douaniers découvrent dans les bagages Jacques-Marie Rouzé, qui a quitté le Conseil des 500 pour rejoindre la princesse Adélaïde du côté de Cahors. Le prince de Conti s'est joint aussi au convoi. Au Pertus, Rouzé partit sans passeport, sans ordre de mission, apparaît suspect. Il est arrêté. Qu'en sera-t-il de nos deux protagonistes ? L'un, issu de la Révolution française, venu du peuple, ayant franchi tous les obstacles de la Révolution grâce à son intelligence et aussi beaucoup de chance. L'autre, la première dame de France, perdue dans les tourments de cette Révolution, chassée de son pays, dont le seul appui est son amour pour Jacques-Marie. Beaucoup d'autres aventures les attendent. Vous le saurez lors de notre prochaine émission d'Un brin d'histoire. retrouvons-nous très vite, si vous le voulez, pour un autre brin d'histoire sur Radio Galaxie 98.5.